Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Lachowski.
Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Prenez soin de vous. Prenons soin de nos soignants à qui nous ne dirons jamais assez merci. Merci à tous ceux et à toutes celles qui accueillent, prennent en charge et accompagnent les patients atteints du Covid-19. Merci aux soignants, aux aidants, à tout le personnel médical, paramédical qui se donne sans compter, mais aussi à tous ceux qui nous aident à vivre en confinement, les employés des commerces et des transports, le personnel d'entretien, de ménage et de livraison, chacun, chacune. Vous êtes nos petits rayons de soleil essentiels au quotidien dans nos vies bouleversées par la pandémie. Il n'y a pas que nos vies qui soient bouleversées par ce foutu Covid-19, il y a aussi notre rapport à la mort et à nos morts, comme ce fut le cas dans d'autres périodes épidémiques et tragiques de l'histoire. Comment prendre soin de nos morts quand on ne peut plus les accompagner, les veiller, ni se rassembler pour leur offrir des funérailles dignes de ce nom? Quel rite peut-on, doit-on réinventer ensemble et pourquoi c'est indispensable? Nous allons en parler sans tabou et tenter de répondre à vos témoignages, à vos interrogations postées sur notre page Facebook avec nos invités. L'archéo-anthropologue Éric Crubezy, spécialiste des rites funéraires dans le monde, et avec le médecin et anthropologue de la santé Alain Épelleboin qui nous indiquera aussi comment garder ou retrouver, même en ces périodes tragiques, surtout peut-être en ces périodes tragiques, le sens du discernement et de l'humour. Oui, l'humour, à ne surtout pas négliger pour prendre le recul indispensable pour nous maintenir en bonne santé physique et psychique et pour nous relier entre humains, tout simplement. Nous vous proposerons aussi en fin d'émission une séance de relaxation, de méditation, à vivre ensemble en direct avec le docteur Chaboch, notre bouffée d'air, notre rituel, notre respiration du vendredi à expérimenter dans Priorité Santé. Bienvenue.
Priorité Santé sur RFI.
Bonjour Alain Épelleboin.
Oui, bonjour.
Bonjour Éric Crubezy.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être en direct par téléphone avec nous dans Priorité en Santé aujourd'hui pour partager, pour parler de ce qui nous arrive et des bouleversements induits par cette pandémie qui continue de s'étendre sur tous les continents. Certains commencent tout juste à en sortir, d'autres s'y préparent comme ils peuvent, mais partout on compte les morts. Une comptabilisation terriblement angoissante. Comment faire face à nos peurs? Comment faire face à notre chagrin? Face au deuil, plus douloureux encore en période de confinement. En France, après avoir pris des mesures drastiques au départ concernant les enterrements, le gouvernement a un peu assoupli les mesures, permis notamment aux proches de voir le visage des défunts. Mais les funérailles collectives, les veillées, tous ces rites humains, si humains, qui nous rendent humains, sont interdits. Qu'en pensez-vous, Éric Crubezy? Alors, si je m'adresse à vous, c'est parce que vous êtes archéo-anthropologue, spécialiste des rites funéraires. Vous avez étudié et comparé dans le monde entier, dans un essai passionnant, aux origines des rites funéraires, les manières dont on prenait soin de nos morts. Et vous êtes aussi démographe, Éric Crubezy. Alors que pensez-vous des mesures prises, notamment en France où nous sommes, face à la mortalité engendrée par cette pandémie?
Mais il y a eu toute une succession de décrets qui ont été publiés par l'État et le gouvernement. Comme vous le disiez, le premier était assez difficile à vivre parce que finalement cette pandémie était assimilée à celle d'Ebola, c'est-à-dire qu'on avait des corps qui étaient hautement contagieux. Et donc, finalement, dès qu'un sujet décédait, il était mis en housse funéraire et il devait être inhumé ou incinéré dans les 24 heures. Et donc ça a créé effectivement un grand émoi, d'une part chez les familles.
Précisons tout de suite, Éric Crubezy, précisons tout de suite, parce que c'est une des questions de nos auditeurs sur les réseaux Facebook. L'Amabank à Conakry en Guinée, il nous demande si les cadavres transmettent le virus.
Eh bien justement, non, parce que ce premier décret qui a été publié en France, en fait, traitait les cadavres comme s'ils transmettaient le virus. Or, en fait, les cadavres ne transmettent pas le virus. On a deux voies essentielles de transmission du virus. C'est d'une part les postillons, d'accord, donc là, des gouttelettes de salive millimétriques qui sont émises. Et d'autre part, c'est quand ces gouttelettes de salive se déposent sur un objet, le contact. Donc, ce qui fait que les morts ne respirant plus, ben, ils ne sont pas dangereux. La seule chose qui reste dangereuse, c'est le contact direct avec eux, c'est-à-dire sur leur peau, etc. Mais en tout cas, de voir... Et donc, ils ne sont pas plus contagieux, si vous voulez, que des éléments, de l'entourage immédiat du mort.
C'est ça. Donc, il y a quand même des précautions particulières. Vous parlez des différents décrets. Donc, quand on a compris que les cadavres n'étaient pas contagieux, enfin, c'est pas Ebola, voilà, comme vous le dites, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui en France?
Alors, en France, ce qui est recommandé, c'est comme la contagion, ce n'est plus avec un cadavre, ce n'est plus la respiration, mais c'est le contact. Il faut éviter de toucher au maximum le mort, c'est-à-dire que ce qui est préconisé, c'est une toilette funéraire à minima. Et ensuite, le mort peut être inhumé ou faire l'objet de crémation. Et je dirais de façon tout à fait habituelle. La seule chose qui, effectivement, n'est plus habituelle, c'est que les déplacements des personnes étant restreints avec le confinement et le contact entre personnes augmentant la diffusion du virus, eh bien, il y a de moins en moins de personnes qui peuvent assister, qui peuvent aller voir le mort et qui ensuite peuvent assister à ses obsèques au funérailles.
Et ça suscite évidemment, alors ça c'est assez terrible, de nombreuses questions. Vous avez démontré, hein, Éric Rubézy, dans votre ouvrage aux origines des rites funéraires, à quel point c'était important, alors, de voir le mort, de pouvoir le célébrer, de faire des rites. Un de nos auditeurs, Constant, au Cameroun, sur les réseaux sociaux, nous dit, mais depuis le début de cette pandémie, tout a changé, des patients décédés sont enterrés loin de leur village, loin de leurs habitations. Cette situation affecte gravement nos coutumes. C'est fondamental de se réunir, de pouvoir à la fois pleurer ensemble et puis célébrer ensemble nos morts.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, d'une façon générale, si vous voulez, à la suite du décès, il va falloir que les proches puissent voir le mort pour comprendre qu'il est décédé, parce que c'est pas quelque chose qui est immédiat, si vous voulez. Donc comprendre qu'il est décédé, et ensuite il faut qu'il y ait des cérémonies collectives où la communauté se joint à ceux qui sont affligés de manière à les soutenir et à les faire comprendre, à leur faire intégrer plus facilement que le mort va rejoindre un ensemble plus vaste, et cet ensemble plus vaste, ça peut être la tombe de la famille, le cimetière du village, une communauté, si vous voulez.
Et est-ce qu'il faudrait, Éric Rubézy, puisque il y a des rites, hein, vous les avez, il y a toujours des rites, dans toutes les sociétés humaines, il y a toujours des rites différents et similaires, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui imaginer, réinventer peut-être d'autres rites, parce qu'on ne peut pas toujours enterrer tout de suite, on ne peut pas se rassembler, enfin, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire aujourd'hui?
Mais ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est actuellement, on voyait ces images de New York, on est en train de réinventer les sépultures de catastrophe, c'est-à-dire mettre de plus en plus des sujets en fosse commune, etc. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est que nos sociétés font face dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les endroits où il y a des sujets âgés, à une surmortalité. Et actuellement, il n'y a plus d'obligation d'inhumer les corps en 24 heures. Comme il n'y a plus d'obligation d'inhumer les corps en 24 heures, et que les pompes funèbres, que ce soit en France ou dans d'autres pays, se trouvent surchargées, on a, si vous voulez, deux solutions. D'une part, créer des morgues temporaires, c'est ce qui se passe parfois dans notre pays, c'est-à-dire qu'on peut stocker les cercueils en attendant d'inhumer les sujets, ou alors effectuer, comme ça a été fait en Iran, comme il semble que ça soit fait actuellement à New York, les sujets dans des fosses. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose dont l'histoire nous montre que ce n'est pas bon.
Et oui, c'est terrifiant, ça, bien sûr.
Voilà, c'est terrifiant parce que vous avez employé le mot, ça devient terrifiant. Ça rajoute finalement de l'angoisse au malheur. Ça rajoute de l'angoisse au malheur, et donc il faut absolument éviter ça, et pour éviter ça, eh bien, il faut se comporter, regarder les leçons de l'histoire en quelque sorte, et on s'aperçoit par exemple qu'en France, dans certains cimetières, lors de la grande peste et lors d'épidémies ultérieures, avant qu'on arrive aux fosses communes, et à l'époque il y a eu des dizaines de milliers de morts, hein, c'était des épidémies bien plus...
létales, bien plus...
Bien sûr que les épidémies contemporaines, Eh bien, avant qu'on en arrive là, il y avait simplement une accélération du rythme des inhumations et des cimetières.
Ah, au fond, il faudrait presque, et je vous suis, Éric Rubézy, enterrer vite nos morts, quitte à leur rendre hommage un peu plus tard. C'est peut-être vers ce genre de choses qu'il faudrait
se diriger. Il faudrait en tout cas éviter au maximum les inhumations de masse ou les fosses communes, si vous voulez. Ça n'a pas de... Je dirais, sur le fond, ça n'a pas de raison d'être. Donc il faut inhumer nos morts un peu plus vite, effectivement, augmenter le rythme, donc ça implique effectivement un effort demandé à la communauté, et notamment aux pompes funèbres. Et ensuite, il faut absolument que les plus proches voient le mort. Alors actuellement, en France, c'est permis. Bon. Et pour nos auditeurs, vos auditeurs qui sont d'Afrique, où les rites funéraires sont excessivement importants, je crois qu'il faut limiter notamment les veillées du mort à un nombre minimal de sujets, et qu'au moins ceux qui veillent le mort portent un masque, si vous voulez. Ça me semble absolument indispensable.
Ce qui peut être très douloureux pour certains, j'ai envie de vous citer le témoignage de Patrick Jean à Kinshasa, en RDC, qui nous dit ici, en République démocratique du Congo, la traditionnelle veillée mortuaire est interdite durant cette période, ce qui laisse que la plupart des Congolais trouvent que c'est pas compatible avec la famille éprouvée. Je cite Patrick Jean, il dit les familles regrettent de ne pas pouvoir rendre les hommages mérités à leurs disparus, mais il ajoute aussi, d'autre part, c'est aussi la pratique économique qui est frappée, puisque l'organisation de ces funérailles avec la traditionnelle veillée mortuaire inclue est très coûteuse pour la famille éprouvée. Et il nous dit, du point de vue de l'organisation, en commençant par la location du funérarium, des véhicules, des boissons, les services funèbres, la sécurité, et il dit qu'à cet effet, justement, à RDC, les avis sont partagés, et il y en a même qui soutiendraient que l'État maintienne cette mesure même après la pandémie. Alors on est là dans des paradoxes, j'ai envie de dire, assez extraordinaires, Éric Rubézy, par rapport à nos morts et à nos rites.
Oui, c'est-à-dire que, si je vous suis, finalement, en République du Congo, actuellement, les familles feraient des bénéfices, en quelque sorte. En tout cas, n'auraient pas engagé des dépenses
sanctuaires,
c'est ça. Voilà.
Et c'est ce qui veut dire qu'il faut réfléchir.
C'est assez variable entre pays. C'est assez variable entre pays, parce que, il y a quelques jours, un ami proche est décédé en Sibérie. Et à cause du confinement, il n'a pas pu être ramené dans son village.
Ah, oui.
Il a donc été inhumé, pas plus tard que hier, dans la capitale de cette république sibérienne. Et j'ai pu discuter avec sa famille. Et alors là, pour le coup, les frais engagés étaient beaucoup plus importants que dans le village, si vous voulez, parce qu'il a fallu louer une concession, en quelque sorte, dans la capitale, etc. Donc on voit qu'on a des situations qui sont très variables.
Et vous disiez effectivement le cas de rapatrier les corps, on le voit beaucoup, on le voit également en France avec des gens, des migrants qui ne peuvent pas retourner dans leur pays, reposer sur leur terre, ce qu'ils souhaitent faire. Enfin, ça soulève des questions incommensurables. J'ai envie de vous faire réagir là-dessus, Alain Eppelboin. Alors je rappelle que vous êtes médecin, anthropologue de terrain au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez entre autres fait partie, accompagné les comités d'experts internationaux qui ont étudié les épidémies de fièvre hémorragique, virus Ebola et Marburg en Afrique. Alors, est-ce qu'il est possible de faire son deuil en période d'épidémie, et comment faut-il réinventer des rites? Qu'avez-vous observé sur place par rapport justement, alors là, à des épidémies qui étaient encore plus contagieuses, si j'ose dire, et où les cadavres restaient contagieux, Alain Eppelboin?
Alors je vais, désolé, je vais un petit peu décaler la réponse pour réagir aux propos de mon collègue.
Bien sûr.
Tout d'abord, les frais en RDC qui sont signalés par cet auditeur ne concernent qu'une petite minorité de la population de RDC. N'oublions pas ce qui se passe dans l'est de la RDC, tout cela ne concerne pas l'immense majorité de la population. Le deuxième point que je voudrais quand même rectifier pour nos auditeurs, le toucher des cadavres est dangereux. La toilette mortuaire est dangereuse si elle n'est pas faite avec des précautions, si la personne n'a pas un minimum de protection avec des gants, un masque sur le visage, une tenue avec des éclaboussures, s'il ne se lave pas les mains correctement. Et j'ajouterai, et ce n'est pas suffisamment dit, qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours un surveillant de celui qui est en rapport avec le virus et qui puisse corriger une faute qui est donnée. Parce que quand on est dans l'action, on fait des actes
bien
manqués,
sûr,
on a
sûr.
Des réflexes. Par exemple, en milieu musulman, on va penser que la main gauche n'a pas besoin d'être protégée, alors que la main droite va être extrêmement protégée.
Mmh,
Donc
mmh.
ça, c'était la première chose.
Bien sûr, vous avez raison de rappeler ces précisions selon les lieux. Et selon les coutumes.
Oui, et de bien penser que les rituels funéraires, y compris en Afrique, même s'ils ont comme lien commun, comme partout dans le monde, de penser que dans l'au-delà, il y a une existence et que cette personne doit rejoindre l'au-delà d'une façon correcte, selon les normes, il y a une très très grande diversité. Il y a aussi, donc, ce que nous avions fait avec les collègues de l'OMS, et notamment Pierre Formenti au Congo, en RDC, c'était d'observer comment se faisaient les rituels et repérer comment des temps essentiels devaient être respectés. Des temps de recueillement, par exemple, un temps qui n'est pas suffisamment souligné, c'est qu'une fois que le cadavre est mis effectivement dans une housse funéraire, ou dans un cercueil, à partir de ce moment-là, il n'y a pas besoin de gens en tenue spécialisée pour reprendre, si j'ose dire, la main, mmh. et la famille peut reprendre ses coutumes. Par contre, il faut souligner que tous les participants, s'ils se lavent tous les mains dans une eau rituelle sur laquelle des prières ont été prononcées, risquent de se contaminer. Il faut effectivement garder les masques. Les bénédictions qu'on fait en système musulman avec une projection de souffle et de crachat sur la tête du bénéficiaire doivent être rigoureusement proscrites.
C'est ça, il faut vraiment revoir les rites, les adapter et accorder ce temps. Et il y a plusieurs temps différents au cours desquels peut se passer des choses différentes. Mais il ne faut évidemment pas se rassembler nombreux non plus autour de nos morts.
Ce que je veux dire, c'est qu'un rituel sécurisé, si vous voulez, qui est par rapport au risque microbiologique, au risque viral, ne doit pas empêcher d'abolir, ne doit pas provoquer l'abolition de temps dans le rituel funéraire qui sont tout à fait essentiels. Et par exemple, des substitutions maintenant peuvent se mettre en place. Il y a un nombre limité d'assistants qui doit être présent, puisque les gens ne peuvent pas se déplacer facilement et ne doivent pas se déplacer en période de confinement. Mmh. Eh bien, que toutes ces personnes aient à la main leur téléphone portable et qu'ils communiquent par l'audio, par la vidéo avec les gens qui ne pourraient pas ne pas être présents. Alors, c'est à chacun de définir sa sensibilité. Certains veulent voir les images, d'autres ne veulent pas voir les images, mais chacun, on peut multiplier et remplacer les rituels.
C'est ça, c'est remplacer. C'est les rituels, c'est garder aussi le fait d'être ensemble, de partager, parce que c'est aussi ce que vous avez montré, Eric Rubezi, dans tous ces rituels funéraires qui sont très différents. Au fond, l'idée à chaque fois, c'est de se tenir chaud, de rappeler la mémoire de celui qui est parti ou de celle qui est partie. Et ça, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on pourrait le faire virtuellement.
Oui, mais donc, quelque chose qui est intéressant, si vous voulez, pour reprendre ce que vient de dire notre collègue, c'est qu'il y a certaines religions, dont la religion musulmane, qui ont prévu des rites à minima. Mmh, par exemple, la religion musulmane implique de laver complètement le corps, etc. Mais en cas d'impossibilité, il y a ce qu'on appelle le tayammum, qui est une toilette sèche, et à l'extrême, simplement, on peut placer les mains avec les mains sur une pierre, etc. Et donc, il y a des rites qui sont, je dirais, tout à fait religieux et officiels, auxquels les religions ont pensé, si vous voulez, depuis longtemps, pour effectivement diminuer ce qui se passe. Hein, c'est d'ailleurs, je dirais, ce type en temps habituel, ça peut être réalisé, par exemple, face à un cadavre en décomposition.
On peut on peut trouver des moyens de rendre hommage à nos morts. On peut trouver des moyens virtuels aussi, de rester liés, parce que c'est ça qui fait notre humanité. Hein. C'est aussi le fait de pouvoir se rassembler ensemble dans Priorité Santé, du coup, juste pour nous faire du bien, pour nous relier et nous épauler. Je vous proposais d'écouter un très joli morceau collectif, justement, et virtuel. La symphonie confinée, proposée par un artiste qui vit dans le Gers, en France, dans le Sud-Ouest, Valentin van der Hagen. Il a réuni 45 musiciens et chanteurs de toute la France, virtuellement bien sûr, hein, pour un clip très émouvant à partir de la chanson Tendresse de Bourvil. Et c'était cela qui nous manquait le plus, la tendresse. On écoute un extrait de ce clip qui a déjà dépassé le 1,5 million de vues sur YouTube.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.
On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien.
Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question.
Non, 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 il n'en est pas question.
Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long.
On ne peut pas vivre sans tendresse. Dans Priorité Santé, ça fait du bien par où ça passe. 45 chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes virtuellement rassemblés dans cette symphonie confinée par Valentin Van Der Hagen, à voir sans aucune modération, à écouter sur YouTube et sur RFI. Franchement, ça vaut le détour et puis chaque instant comme ça, pris sur nos détresses est important et précieux. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du médecin et anthropologue de la santé Alain Eppelboin et de l'archéo-anthropologue Éric Rubézy, tous deux nous aident à traverser, à y voir un peu plus clair dans nos vies bouleversées par cette pandémie, bouleversées dans le rapport à la mort et à nos morts, on l'a dit, hein, bien sûr, il y a aussi derrière la perspective de notre propre mort. Face à tout ça, c'est vrai que la tendresse nous semble essentielle à l'unisson, ensemble. Elle nous rappelle aussi notre vulnérabilité commune. C'est comme si on l'avait un peu oublié, et là j'ai l'impression on l'a plus oublié en Occident que sur le continent qui est actuellement frappé par la pandémie. On l'a un peu oublié, Alain Eppelboin, on a pensé qu'on était tout puissant face à tout.
Ah bah oui, la toute puissance, le triomphalisme médical. Rappelons-nous l'époque où l'OMS parlait de santé pour tous en l'an 2000. La façon dont le SIDA nous a complètement déstabilisés, alors que depuis l'avènement des antibiotiques, la tuberculose n'était mortelle entre guillemets que dans des situations de très grande pauvreté, de précarité, qui malheureusement concernaient et concernent toujours une grande partie de l'Afrique.
Oui, c'est vraiment notre interdépendance qui est mise en avant. Et puis, il faut aussi, puisqu'on parlait de réseaux virtuels, puisque en confinement, on fait beaucoup de choses virtuellement, il y a énormément d'informations qui nous arrivent. Il faut faire attention aussi à garder notre discernement face à ce qui est vrai, face à ce qui est faux, face à ce que nous disent les médecins, à ce que nous disent les chiffres, à ce que nous disent des soignants, et puis à ce que nous disent aussi parfois des charlatans.
Oui, sauf qu'il faut faire attention à ne pas confondre l'excellente analyse critique par une espèce de paranoïa qui amène à chercher toujours des causes conspirationnistes. Je prends un exemple, je crois qu'il y a eu très récemment à Pékin, au Sénégal récemment, une rumeur comme quoi cet enfant était décédé à la suite d'une vaccination. Or, c'était un petit commerçant de médicaments qui passait, qui, comme d'habitude, est toujours plastique. Si on lui demande si on a quelque chose pour mal de tête, oui, il dit qu'il a le mal de tête. Si on lui demande si on a quelque chose pour le coronavirus, il va répondre oui. Je me rappelle une fois, il y avait une dame qui disait « j'ai des maux de cœur ». Il avait pris une boîte d'aspirine UPSAC où il y avait un trèfle, donc il faisait trois cœurs l'un à côté de l'autre, et il avait dit à la dame « ah oui, pour vos maux de cœur, qui en l'occurrence étaient des gastralgies, des ulcères, il faut prendre de l'aspirine ». Attention aux jeux de mots qu'on a entendus sur le Nîmes, la plante que tout le monde connaît, qui contiendrait de la quinine, mais aussi des extraits de quinquelibat, un autre charlatan sur Internet, et jouant avec le mot tout mot qui a kin ou kinine dedans va devenir un médicament. Le neem, Azadirachta indica, importé par les colons d'Inde aux époques coloniales pour être planté en milieu urbain, a des vertus pharmacologiques, mais qui sont extrêmement limitées et plutôt d'ordre toxique. Notamment anti-insectes pour les graines.
Il n'y a pas que l'épidémie qui soit contagieuse. Attention sur Internet notamment à la contagion aussi des chiffres, parce que parfois j'ai l'impression que tous ces chiffres, ils sont très très importants, il faut les suivre, mais ça aussi, ça nous angoisse et ça nous peut-être. Enfin, j'espère que ça ne nous empêche pas de faire les gestes qu'il faut. Hein, je vous les rappelle, chers amis auditeurs, il faut vraiment garder les distances de sécurité, se laver les mains régulièrement, se moucher dans son coude. Mais attention à tous ces chiffres qui finalement, j'ai pas envie de dire amplifie l'épidémie, mais l'amplifie peut-être notre angoisse. Qu'en pensez-vous, Éric Rubézy?
Ah, certainement, vous avez raison. C'est-à-dire que le compte de la mortalité que nous avons en France et dans de nombreux pays à travers le monde tous les soirs peut sembler effrayant. Mais il faut quand même se souvenir qu'en France, d'une façon générale, on a en moyenne 1600 à 2000 morts par jour, si vous voulez.
En moyenne normale.
On a 1600 à 2000 morts par jour, tous les jours. Et actuellement, on ne sait pas d'ailleurs quel est le nombre de morts par jour. On a un décompte du nombre de morts par coronavirus, mais on n'a pas un décompte du nombre de morts par jour, parce que certaines causes de mortalité se sont, je dirais, heureusement effondrées. Je pense notamment à tous les accidents de voiture, etc.
On a une
mortalité qui est en temps normal de 1600 à 2000 morts par jour en France, bien sûr.
Oui, il faut s'en rappeler. Ça me fait penser aussi à ce que disait Francine Toumi, une épidémiologiste en RDC, Alain Pellemoy, qui me disait, mais finalement, on a de la chance quand on sait de quoi sont morts nos morts. On se retrouve sur le continent africain dans une autre forme de comptabilité, Alain Pellemoy.
Oui, et puis les chiffres, si vous voulez, par exemple, la rougeole, à l'heure actuelle, à cause de la dégradation de programmes de vaccination, cogne terriblement et fait un nombre de morts absolument considérable.
Sur le continent.
Ebola, qui est une maladie terrifiante, depuis 1976, où l'homme l'a découvert, ça ne signifie pas qu'il n'existait pas avant, si on comptabilise au total, et bien sûr c'est énorme, mais n'empêche, c'est 20 000 morts. Mm-hmm. Donc, ce qui n'est rien du tout par rapport au paludisme, par rapport aux affections courantes, etc. Donc, les chiffres, c'est très difficile d'en faire une lecture objective. Et par exemple, un de mes collègues, Gilles Pison, bien connu au Sénégal, avec une collègue de l'INED, vient de sortir un article où il explique comment en fait les chiffres réels de mortalité, de morbidité ne seront clairs qu'à la fin de l'épidémie, parce que là, certains chiffres ne vous donnent que les gens morts dans la rue, d'autres chiffres ne vous donnent que les gens morts dans les hôpitaux, d'autres oublient les gens dans les EHPAD, d'autres oublient les gens à domicile. Et en ce qui concerne l'Afrique, à l'heure actuelle, vous savez, les symptômes du coronavirus sont quand même des symptômes de toutes les affections bronchopulmonaires, grippe que nous connaissons. Donc pour l'instant, les chiffres ne reflètent que le fonctionnement de l'institution ou du système de prélèvement et d'identification.
Donc attention à ne pas se laisser happer non plus par tous ces chiffres. Et puis paradoxalement, Alain Pellemoy, il y a aussi du tragicomique, j'ai envie de dire, et même de l'humour dans cette confrontation avec la maladie, avec la mort, et qui nous touche tous, sur tous les continents. Alors, dans les journaux, sur la toile, évidemment, sur nos ondes, il y a énormément de sketchs, de blagues. Vous les repérez, vous les relayez. Le rire, c'est notre meilleure arme. Alain Pellemoy, quand quelque chose de pareil nous arrive, et nous arrive à tous.
Je dirais plutôt l'humour.
Oui,
par exemple, nous avons un principe extrêmement important en Afrique qui est la relation à plaisanterie, la sanaku. Mmh. On n'a pas attendu chaque culture a ses formes de production d'humour. C'est-à-dire un rire qui peut être un peu grinçant ou pas grinçant, mais qui permet en fait de réfléchir, d'attirer l'attention. Je pense par exemple à un proverbe peul, qui a rapport au fait que traditionnellement il y avait des aires de défécation, donc on y allait précautionneusement sur la pointe des pieds pour éviter de piétiner une crotte sur le sol, et le proverbe c'était pour éviter de piétiner le sec, tu secoues le frais. C'est-à-dire que l'ironie nous permet aussi de prendre conscience qu'à un moment donné, on accumule un nombre de précautions absolument excessives et que dans le même temps, on s'expose très dangereusement comme le talon d'Achille.
Oui, c'est ça.
Maintenant, chaque civilisation n'a pas les mêmes productions d'humour. Là, moi, à l'heure actuelle, j'ai recensé presque 800 dessins d'humour photo, et on voit des humours qui sont différents selon les milieux religieux, politiques, culturels.
Et puis il y a aussi en confinement, alors c'est peut-être plus en France, en Occident, où nous sommes déjà en plein dans la pandémie, en Occident aussi beaucoup de familles qui sur Internet racontent leur vie confinée, évidemment et forcément merveilleuse. On fait un petit arrêt entre le continent et Paris, dans Priorité Santé sur RFI. On a eu envie justement de vous faire décrocher un petit sourire, chers amis auditeurs et auditrices, voire même un rire franc, avec un extrait d'une chronique de Maman, notre Maman internationale, que vous écoutez sur RFI. Bien sûr, le coronavirus sévit aussi dans la République très très démocratique du Gondwana, en bouleversant la vie de tous, et plus particulièrement des hypochondriaques. Maman, sur RFI, extrait d'une de ses chroniques.
Incontestablement, il y aura un avant et un après Covid-19. Le monde ne sera plus le même, nous ne serons plus les mêmes. D'ailleurs, nous ne le sommes déjà plus, hein. Bon gré, mal gré, nous avons changé. Nos comportements ont changé. Qui va oser prétendre le contraire aujourd'hui? En tout cas, pas moi, hein. Attends, depuis qu'on connaît les symptômes d'une contamination au Covid-19, je surveille mon organisme comme le lait sur le feu. Je guette les moindres symptômes comme la CIA et la DIA guettent les faits et gestes d'un chef terroriste ou du boss d'un cartel de drogue. Attends, on a dit partout que quand ta gorge te fait mal, c'est sûrement le coronavirus qui est entré par effraction dans ton corps. Eh ben, je peux vous dire que dès que j'ai la bouche un peu sèche et que je sens des picotements dans la gorge, mon cœur fait frigidaire. Je me dis, ça y est, je suis dedans. Je commence alors à déjà faire mentalement une enquête policière digne de l'inspecteur Colombo pour démasquer le criminel qui m'a contaminé en me postillonnant dessus juste au moment où je n'avais pas mon masque. Ou alors, à me souvenir quelle poignée de porte sale et contaminé, j'ai manipulé et à quel moment j'ai touché mon nez ou ma bouche avant d'avoir lavé mes mains. Ah, je vous le dis, hein, on n'est plus les mêmes. Il y a juste quelques semaines, on vivait dans un autre monde. Attends, quand quelqu'un éternuait devant toi, tu étais poli, tu lui disais à tes souhaits. Aujourd'hui, quand tu éternues, avant même que tu dises ouf, c'est ta propre femme et tes enfants qui te mettent direct en quarantaine pour 14 jours, sujet à risque. Ils ne te disent pas à tes souhaits, mais plutôt ah, tu souhaites nous tuer, hein. C'est incroyable, on a changé de monde.
La chronique de Maman a retrouvé évidemment sur RFI, ça fait du bien d'en sourire, hein, on ne peut pas faire que pleurer, ça fait vraiment du bien de rire, c'est une manière de faire avec nos angoisses, notre désarroi, de nous réhumaniser, Alain Epelboin.
Oh, ça désamorce plein de choses, là, en écoutant votre délicieux Maman, je pensais par exemple on pourrait faire une blague à l'heure actuelle, alors je ne sais pas si elle va passer, mais de dire qu'un des bénéfices secondaires, de jouer comme s'il y avait des bénéfices secondaires et pas simplement des usages criminels, économiques du virus qui sont à l'œuvre à l'heure actuelle, c'est de dire un des avantages du coronavirus, c'est que les voleurs de sexe sont au repos. Sont au chômage, parce qu'on dit que certaines personnes ont la propriété de vous serrer la main et que votre sexe, que vous soyez garçon ou fille, disparaisse, qui est une croyance absurde.
Évidemment,
donc, les
voleurs
de sexe sont au chômage.
Voilà, c'est ça. Et comme disait tout à l'heure Éric Rubézy, il y a évidemment moins d'accidents de la route, hein, du côté. Il faut évidemment tirer à chaque fois le meilleur, hein. C'est peut-être le propre de l'humanité de tirer du plus tragique le meilleur. Il y a aussi du silence dans nos villes. On entend de nouveau chanter les oiseaux, à Paris en tout cas, et ailleurs aussi. Éric Rubézy, est-ce que c'est de même que prendre soin de nos morts est une façon de nous humaniser, une marque de notre humanité? Est-ce que prendre aussi du recul, pouvoir faire avec le plus tragique de l'existence auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui, c'est une manière de rester humain, de préserver notre humanité.
Oui, si vous voulez, qu'est-ce qui fait l'humain ? L'humain, c'est par rapport aux autres animaux. L'homme est un animal, il faut essayer de voir ce qui nous différencie des autres animaux. Ce qui nous différencierait des autres animaux, c'est que nous pouvons créer des mondes intérieurs.
Oui.
C'est-à-dire que nous pouvons rêver et penser à des choses passées et les recréer, ou penser à des choses futures. Et je dirais que rien de mieux que l'isolement pour y arriver, peut-être.
Ah, peut-être qu'en confinement, on peut rêver à son passé, rêver à son présent, rêver à son futur et rêver à un futur meilleur. En profiter peut-être, Alain Eppelbaum, on va terminer là-dessus, en profiter peut-être pour nous inventer autre chose à l'extérieur et à l'intérieur, c'est ça ?
Ben oui, c'est ce que je veux dire. De la même façon qu'on l'a dit dans les rituels funéraires, tout en respectant la grammaire, ce qu'on appelle la grammaire rituelle, on peut réinventer. Mais dans notre quotidien, chacun, selon sa sensibilité, peut réinventer des rites sacrés ou profanes. Là, se créer par exemple le rite de 20h où tout le monde tape des casseroles, applaudit.
Et dit merci aux soignants, oui.
Voilà, mais j'ai vu un article où des chrétiens proposent de rassembler des prières aux mêmes heures, des musulmans peuvent faire aussi la même chose, et puis on peut aussi réinventer à des heures entre jeunes, je pense dans les quartiers, des sonos ou des tambours qui se répondent ou des chants qui se répondent. Là, il faut faire confiance aux gens. Les gens sont déjà en train d'inventer ces nouveaux rites pour compenser justement l'angoisse, sont en train d'utiliser l'humour pour dépasser justement la peur.
C'est ça, l'humour pour dépasser la peur, et puis aussi, il me semble, un autre regard sur chacun d'entre nous, sur ceux qui nous sont les plus utiles aujourd'hui dans nos sociétés. J'ai lu moi aussi quelque chose là-dessus, sur le fait que finalement, qui nous est vraiment indispensable aujourd'hui ? Ben, on le voit bien, hein, les gens qui nous transportent, les gens qui nous donnent à manger, les gens qui nous aident à nettoyer, à faire le ménage, et nos soignants, bien sûr, mais finalement, ce sont les plus humbles qui sont les plus essentiels. Les bénévoles aussi, bien sûr. Alain Eppelbaum.
Oui, mais bien sûr, vous avez raison. Enfin, moi, je ne peux pas m'empêcher, mais je ne suis pas le seul, à avoir une pensée très émue pour ceux qui, et celles, qui n'ont pas en poche l'argent du repas du soir
bien
ou du lendemain. Un autre usage qui est déjà en place, mais qui peut se fortifier, c'est l'usage du téléphone portable pour envoyer une petite somme à des êtres chers. C'est de téléphoner régulièrement aux vieux qui sont isolés,
c'est de
en veillant
faire un
à
signe.
Leur expliquer comment savoir utiliser le téléphone. Etc.
Voilà, c'est de nous faire signe ensemble. Merci infiniment à tous les deux. Merci Alain Eppelbaum. Merci Eric Rubesi. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Eric Rubesi, paru aux éditions Odile Jacob, aux origines des rites funéraires. Et je vous renvoie aussi, chers amis auditeurs, sur la toile pour suivre vos travaux, vos publications et vos compilations. Alain Eppelbaum, merci. Et prenez soin de vous, tous les deux. Restez avec nous, car c'est le moment de respirer et de se recentrer avec notre rituel du vendredi, notre séance de relaxation, de méditation à expérimenter tout de suite, là où vous êtes, chers amis auditeurs, pour partager une bouffée d'air, ici et maintenant, sur RFI. Et maintenant, prenons soin de nous. C'est la séquence relaxation tant attendue de Priorité Santé, comme chaque vendredi désormais. On se pose pour une vraie pause intérieure en compagnie du docteur Adrien Chaboche, médecin et psychothérapeute. Bonjour docteur Adrien Chaboche.
Bonjour Caroline.
Nous sommes presque prêts, on n'attend que ça pour notre séance de relaxation, de respiration, de méditation, notre rituel du vendredi, que vous pouvez d'ailleurs aussi pratiquer tous les jours grâce à notre podcast, chers amis auditeurs et auditrices. Alors sur quoi allons-nous méditer, nous relaxer, respirer aujourd'hui, docteur Adrien Chaboche, que nous proposez-vous ?
Eh bien, aujourd'hui, je vous propose paradoxalement de méditer sur rien et de faire rien. On fait tellement de choses en ce moment, trop de choses de tous les côtés, trop d'informations, trop d'obligations, on est surchargé, donc pourquoi pas faire rien ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Faire rien, sacré challenge, c'est encore plus que ne rien faire, faire rien. Comment devons-nous nous installer pour ne faire rien, cher docteur Chaboche ? Moi, je suis assise là, devant mon micro. Qu'est-ce que vous conseillez à nos auditeurs ? Comment est-ce qu'on se pose pour essayer de faire le vide, en fait ?
Exactement, Caroline, mais vous avez bien identifié la question. C'est si on essaye de trop bien faire, on va déjà se mettre dans l'embarras. Alors je vous propose, comme vous l'êtes, et c'est très bien, en étant installé sur votre siège, et peut-être nos auditeurs seront dans leur fauteuil, canapé, peut-être leur lit, peut-être même s'ils ont de la chance sur un coin de verdure, allongé, ou dans un hamac, on pourrait imaginer. Et on s'installe comme on l'est, sans chercher à faire trop bien, puisque ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est à faire rien. Donc poser les mains sur les jambes, tout simplement, poser la tête là où elle est, là où elle peut s'appuyer, ça c'est intéressant, c'est important. Les jambes peuvent se décroiser et les pieds peuvent ressentir le sol sous la voûte des pieds.
Nous voilà posés, voilà. Installés, on vous écoute, docteur Adrien Chabot, je vais vous laisser nous guider à l'intérieur de nous-mêmes finalement.
Exactement, Caroline, on va y aller ensemble, je vais vous accompagner un petit peu comme si on pourrait être en train de marcher sur un chemin ensemble, mais tout en faisant rien, ce qu'on n'a plus l'habitude de faire. Alors vous pouvez, pour habituer votre regard, vos yeux, à se rappeler comment on fait rien, les laisser fixer un point par exemple, c'est tout à fait possible. Vous pouvez les laisser trouver un point de repère, se poser et puis attendre que cela vienne. On peut aussi apprendre à vos mains à ne faire rien en les laissant poser là où elles sont. Vous pouvez sentir les points d'appui. Peut-être vous sentirez aussi derrière le dos le fauteuil qui s'appuie un peu plus ou sous les pieds le sol qui est bien là. Et c'est déjà un très bon début, Caroline. Très, très bien. Continuez à faire rien. Vous sentirez à un moment donné que naturellement, votre regard va se perdre dans l'horizon, dans le rien. Peut-être ce sont vos paupières qui se ferment et vous pouvez les laisser suivre ce mouvement en n'en faisant rien. Et petit à petit, c'est ce voyage intérieur, votre regard va s'ouvrir plus intérieurement. Et on peut, de haut en bas ou de bas en haut, comme vous le souhaitez, regarder déjà ce qu'il y a en nous, en soi-même. Peut-être il y a des tensions qui sont accumulées, certainement, avec tout ce qui se fait ces derniers temps, des contrariétés, des contraintes. C'est très bien, Caroline, voilà, vous sentez la respiration plus profonde. Mmh. Et ces tensions, ces contraintes, eh bien, simplement, je vous propose qu'on n'en fasse rien. On les observe comme des objets posés un peu négligemment sur le coin d'une table, sur quelque part chez vous, un objet qu'on a posé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est d'observer peut-être, vous les voyez comme une forme, une couleur, ces tensions, ces contrariétés, ou vous les entendez comme un bruit de fond, ou bien peut-être du bout des doigts, comme une texture. Mais évidemment, comme on l'a dit, eh bien, on n'en fait rien, on ne cherche pas à les résoudre. On ne cherche pas à les changer. On ne cherche même pas à les oublier. Car si ça se fait, c'est qu'on n'a rien fait pour. Et alors, naturellement, en laissant ça là où c'est, on n'en fait rien. Naturellement, votre conscience, votre esprit va observer qu'il y a aussi, et vous le ressentez davantage, des zones qui sont du corps bien relâchées, détendues. Voilà. C'est très bien, Caroline, continuez. Et ces espaces de confort dans votre corps, vous pouvez les laisser s'observer à votre conscience, la manière dont c'est peut-être plus détendu, plus léger. Ou peut-être c'est une sensation de détachement, comme si on prenait du recul par rapport à tout ce qui se passe. On n'en fait rien non plus, puisqu'on a dit qu'on faisait rien des tensions. On ne fait rien non plus de ça, on ne veut pas bien faire. Sinon, il faudrait toujours être à de mieux en mieux faire. Non, 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 non. Juste, on fait rien de rien. Et ça fait du bien. On peut être dans son espace à soi-même. Il n'y a rien à devoir. Il n'y a rien à savoir de trop. Il n'y a rien à être en particulier. On peut être un peu à mi-chemin, on n'est ni vraiment éveillé, pas vraiment endormi non plus. Un peu à mi-chemin entre veille et sommeil. C'est vraiment votre espace à vous, à chacun. Et plus on y est, et plus vous respirez profondément, plus cet espace s'agrandit pour vous. Pour vous y accueillir tout entier, tout entière, Caroline. Et on peut toujours faire rien et juste ressentir ce qui vient vous reposer, vous détendre, vous régénérer. Et évidemment, en profitant de la musique, en profitant de votre musique intérieure, comme on l'a fait lors des précédentes sessions, on a laissé des marque-pages, des repères. Exactement, voilà, vous le retrouvez, Caroline, c'est très bien. On a laissé ce marque-page pour vous à cet endroit qui vous fait du bien. Pour le retrouver à d'autres moments, peut-être dans la journée ou d'ici à ce que l'on se reparle. Vous retrouverez ce marque-page comme un livre qu'on peut ouvrir ou fermer. Et chacun, à sa manière, pourra retrouver ce moment comme une petite séance d'auto-hypnose méditative. Il vous suffit maintenant, à chacun son rythme et à vous, Caroline, de le faire, petit à petit de revenir. Mais peut-être vous voudrez prolonger ce moment et chacun peut le faire aussi, vous reviendrez chacun à votre rythme. Comme on revient d'une promenade, tout doucement, on revient tranquillement.
Et c'est pas évident de revenir de cette promenade intérieure, là, docteur Chaboch. Heureusement qu'on a mis le marque-page pour pouvoir y retourner. Merci beaucoup, ça fait du bien à l'intérieur, sûrement à l'extérieur aussi. On en redemande, on vous retrouve donc bien sûr en podcast aussi, hein, sur le blog de Priorité Santé, docteur Chaboch, et puis évidemment vendredi prochain avec Caroline Paré. Merci beaucoup pour ce moment de vraie respiration, moi j'ai respiré en tout cas, merci docteur Chaboch.
Merci Caroline, merci à tout le monde, on se retrouve bientôt.
On se retrouve vendredi prochain, prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous, chers amis auditeurs. Et vous pouvez, si ça vous chante, continuer à ne faire rien, où que vous soyez sur la planète. Lundi prochain, Caroline Paré sera de retour dans Priorité Santé avec toute la fine équipe confinée mais au taquet. Merci les filles, Astou Samaké, Ophélie Lassen, Caroline Fillette. Merci à Didier Chibouz à la technique aujourd'hui et merci, un grand merci à Steven Elsley à la réalisation que je remercie donc chaleureusement mais de loin. On est en studio avec une vitre qui nous sépare. Nous vous souhaitons une très belle fin de semaine à la maison. N'oubliez pas de vous protéger, lavez-vous les mains, évitez les rassemblements. On compte sur vous, on a tous tellement besoin les uns des autres, on reste en lien. Sur les belles ondes partagées de RFI, je vous salue et vous embrasse virtuellement sans temps.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.